S'ils vous amochent, vous les amochez. S'ils vous tuent, vous vous relevez.
Microclimat.
Que vous soyez branché sur Fréquence Paris Pluriel ou Radio Vassivière, c'est l'heure de retrouver la troisième édition spéciale d'Escapade Info, une émission de Radio Escapade, animée et préparée par Pierre.
Écoutez, faites très attention.
Si on faisait un pas de côté, on verrait ce qu'on ne voit jamais.
Si dans ce pays la vie d'un homme tient un fil, un bon réseau d'informations fait beaucoup de fil.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Escapade Info, mercredi 9 décembre 2015.
Vous êtes sûr d'avoir compris?
Quand je comprends mal, c'est que je ne veux pas comprendre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez Escapade Info, nous sommes le mardi 8 décembre et aujourd'hui on part au Bourget, et bien là où se déroule le cœur de la COP21, et je vous propose d'aller visiter l'espace grand public pour voir et bien qu'est-ce qui s'y trouve là-bas et qu'est-ce qu'on raconte justement à tout le public qui peut venir ici à l'espace des expositions du Bourget.
Vous prenez ce passage couvert, au bout duquel vous pouvez tourner à droite et vous êtes arrivé sur place.
Voilà. Bien, je vous remercie.
Bonne journée, monsieur.
Au revoir. Pour venir ici, on prend une navette gratuite depuis le métro. Le trajet dure environ 30 minutes. Et quand on arrive, il y a plein de monde pour nous accueillir, pour nous donner la direction. Mais voilà, eh bien, ils n'ont pas le droit de parler aux médias. Donc l'enregistrement que vous venez d'entendre, c'est fait caché. Et puis pour vous donner un petit peu l'ambiance d'ici, il y a énormément de policiers, dont certains sont lourdement armés. Il y en a qui sont montés sur des chevaux. Enfin voilà, ça donne un petit peu le ton dans un événement qui est censé vouloir trouver la solution pour le climat et au final peut-être trouver une solution pour la paix, puisque les deux questions sont intimement liées. Bienvenue à l'espace grand public de la COP21, sobrement appelé espace génération climat. On va devoir passer des portiques de sécurité. Juste après avoir franchi les portiques de sécurité, je rencontre des militants de l'action non violente COP21. Ils sont en train de distribuer un tract mettant en parallèle la nécessité de trouver 100 milliards d'euros pour le fonds vert destiné aux pays du Sud afin de lutter contre le réchauffement climatique et les 650 milliards d'aides aux énergies fossiles qu'il existe dans le monde. On écoute Geoffroy.
Alors moi ce matin, je suis venu expliquer aux gens que d'un côté, au niveau des négociations, on ne trouve pas les 100 milliards de dollars à mettre dans le fonds vert par année, et que d'un autre côté, on met 650 milliards de dollars dans le financement des énergies fossiles, donc on met en parallèle ces deux chiffres.
Donc ça voudrait dire qu'il faudrait faire un changement de modèle de société? C'est ça que vous essayez d'expliquer aux gens qui viennent ici?
C'est le changement de modèle de société, c'est de mon avis personnel quelque chose d'indispensable. Mais ce qu'on dit surtout, c'est que ça peut être beaucoup plus simple qu'on ne le pense de trouver l'argent pour financer ce fonds vert. On peut même en trouver plus.
Ouais. Est-ce que vous avez été bien reçu ici au Bourget parce qu'on voit les mesures de sécurité impressionnantes? Il y a eu une action au Grand Palais qui a été sévèrement réprimée. Est-ce que ici on vous a accepté? Vous pouvez distribuer vos petits tracts, parce qu'on voit le petit tract que vous distribuez, donc c'est un billet de dollars, mais avec un texte écrit justement dessus, les solutions pour financer la question climatique. Voilà, juste est-ce que vous avez été bien accueilli? Comment ça s'est passé pour votre arrivée ici?
Alors quand on est arrivé ici, on en a distribué à l'extérieur, on nous a rien dit, on est rentré sans problème, on a passé les portiques de sécurité, on a commencé à tracter pendant une bonne demi-heure, des forces de l'ordre sont venues nous voir pour nous dire qu'il fallait sortir. Nous leur avons expliqué qu'on se sentait légitime d'être là et de faire ce que l'on faisait. Et la sécurité est venue les voir pour leur dire que c'était bon pour nous, qu'on pouvait rester là parce qu'on ne troublait pas l'ordre de la chose. On faisait que communiquer avec les gens. Et dans un pays qui prône la liberté d'expression, c'est important de pouvoir le faire encore.
Ils sont venus vers vous dans quel état d'esprit?
Ils nous ont demandé de quitter les lieux, que c'était privé, que le tracting était interdit. Ce que nous avons refusé de faire, en restant toujours dans une attitude et une posture non violente. On a pu engager la conversation avec eux. En tant qu'être humain, ils étaient tout à fait d'accord avec ce qu'on faisait. Des agents de sécurité du site, donc pas des policiers, sont venus, ont expliqué à la police que c'était bon pour nous, on pouvait rester. Donc on continue et on lâche rien.
Et globalement, vous avez un bon retour des gens que vous rencontrez là?
excellent. C'est vraiment, tous les gens sont réceptifs, tout le monde a son petit billet dans la main, donc c'est vachement rigolo à voir. Et on se rend compte qu'il y a une vraie déconnexion entre la société civile et les gens qui sont en train de négocier et d'échouer les négociations pas très loin d'ici. Donc c'est vraiment révélateur qu'il y a urgence et qu'il faut que l'on fasse passer notre message et qu'ils l'entendent. Parce qu'il semblerait que les gens qu'ils sont censés représenter ne sont pas d'accord avec eux. Donc,
Merci à toi.
Merci.
Nous sommes dans l'espace Génération Climat, un espace immense mais éphémère. Je vous laisse imaginer les kilomètres de moquettes, les kilomètres de bois agglomérés, parce que ça paraît tout bio, tout écolo, tout ça, c'est tout en bois ce qui est fait ici, à part la structure qui est une grande tente, comme on peut en voir sur des festivals ou sur des grandes conférences. Il y a aussi des palettes qui servent de mobilier, et elles semblent bien neuves, on dirait pas que c'est de la récupération. Greenwashing oblige, il y a un célèbre fabricant de meubles suédois qui propose aussi le mobilier ici. Alors du côté des stands, eh bien, on trouve des ONG, bien sûr. On trouve beaucoup de collectivités qui viennent aussi communiquer envers le public. Il y a des espaces de conférences, il y a des espaces où les gens peuvent s'installer pour travailler. On en voit beaucoup sur leur ordinateur, en train de pianoter. Et je vous propose de s'immerger dans l'ambiance de ce lieu. En fait, on pourrait dire que c'est une véritable ville qui s'organise ici, avec ses restaurants, ses espaces de détente, ses lieux de discussion, ses lieux d'exposition. Mais une ville, tout ça, sous de l'éclairage artificiel, il n'y a pas de lumière du dehors. Alors, un éclairage fait avec des LED, certes, mais vu la surface, ça doit quand même faire de la consommation. Vous entendez la fin d'une action jusque-là silencieuse d'une quinzaine de militants américains et asiatiques qui portaient des pancartes appelant à l'abandon des énergies fossiles. On écoute la fausse solution moins radicale de l'Institut québécois du carbone.
Oui, bonjour. Mon nom est Marc Soriol. En fait, je travaille pour l'Institut québécois du carbone. Notre institut, dans le fond, c'est un institut québécois, donc au Canada. Un des buts premiers, c'est faire de la sensibilisation au marché québécois du carbone. On le fait par trois vecteurs, sensibilisation au public en général, on fait de la formation, on va dans les bibliothèques municipales, on parle du marché du carbone puis des enjeux. Il y a le côté aussi plus sensibilisation aux professionnels, donc ingénieurs, avocats, scientifiques. On a un côté aussi qui offre des services de consultation, on est en train de développer ça, puis d'autres formations plus spécialisées pour 2016. Mais aussi l'Institut québécois, ça permet entre autres, et c'est un des buts premiers de l'Institut, ça permet à différents scientifiques internationaux au Québec en particulier, mais aussi on a en Suède, on a en Californie, on a aux États-Unis au Québec, de parler ensemble, puis de faire du réseautage, puis publier leur information via une plateforme web sur le marché du carbone et les enjeux environnementaux.
Ça constitue en quoi ce marché du carbone?
En fait, le marché du carbone, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on a établi un seuil limite de pollution. Puis si on pollue au-delà de ce seuil-là, on est obligé d'acheter des crédits compensatoires. Puis si on pollue en dessous de ce seuil-là, on peut vendre les crédits compensatoires. Donc, il y a nécessairement un échange économique entre le vendeur et l'acheteur ou entre le pollueur et celui qui réduit ses émissions de carbone. L'avantage, je pense, du système un peu canadien, canadien, en fait, québécois qu'elle fournit, parce que c'est le Canada en tant que pays n'a pas sans adhérer. Là, chaque province, c'est un peu un système indépendant, mais c'est un système de cap and trade, comme j'ai expliqué. Puis aussi, c'est qu'on a un prix plancher puis un prix plafond. Puis on est basé sur certains millésimes, donc à chaque année, on établit un prix. Puis après ça, la bourse va définir c'est quoi le prix. Donc, je pense qu'en 2015, le prix était à environ 12 $ canadiens. Maintenant, avec les échanges, on se rapproche plus de 16 $ canadiens.
Donc 12 $ ou 16 $ canadiens, pourquoi? Pour acheter
pour
quoi?
Pour une tonne de carbone.
D'accord. Et la finalité, du point de vue environnemental, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça apporte?
Principalement, ça va permettre de réduire les émissions de CO2. ça va mettre de l'emphase et de la pression sur chacun des pollueurs à compenser ou après ça à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que si le pollueur continue à polluer, il est obligé de plus en plus d'acheter des crédits, donc de financer sa pollution. Donc, il va avoir des déboursés monétaires de la compagnie. Donc, ça va coûter plus cher polluer que ne pas polluer. C'est que ça, c'est un des enjeux. Puis l'autre chose aussi, qu'est-ce qui se passe, c'est que quelqu'un qui est un bon citoyen économique ou un bon acteur industriel, un bon un citoyen vert ou une entreprise verte, mais elle a un avantage économique ou un avantage fiscal, dans le fin fond, c'est qu'elle va, entre autres, en réduisant puis en améliorant ses processus industriels, bien, elle devient plus compétitive aux marchés internationaux. Mais en plus de ça, son gain, parce qu'elle va réduire ses émissions de carbone, son gain peut être revendu par la suite. Donc, c'est un gros incitatif à opter pour l'économie verte parce que, bon an, mal an, chaque compagnie qui s'améliore, il y a deux gains. Un, elle devient plus productive point de vue purement économique, mais aussi ce gain de productivité-là qui peut aller par une baisse des émissions de carbone va lui permettre de vendre ses crédits. Donc, elle gagne sur les deux points puis ça favorise beaucoup l'économie verte.
Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une limite dans le fait que les entreprises intègrent ça dans leur coût, comme on intègre la publicité, par exemple?
Est-ce que ça va être intégré au fur et à mesure dans les biens et services que la compagnie vend? Oui, et nécessairement. Il y a une partie que le consommateur voit aussi comme une valeur ajoutée à aller de plus en plus vers un produit de plus en plus écologique. Ne serait-ce, admettons qu'on pense aux autos électriques. Entre autres, le Québec, la province du Québec a favorisé un réseau de bornes de recharge pour les autos électriques, mais comme tel, il y a un avantage, ne serait-ce que le Québec ou une province mette en place un certain réseau pour avoir un incitatif à acheter une auto électrique. Mais pour le consommateur aujourd'hui, pour lui acheter une auto électrique, bien, ça vient un avantage important d'un point de vue de ses valeurs, mais pour le manufacturier aussi, parce que la province et les instances facilitent l'intégration de plus en plus des économies vertes.
Là. L'agroécologie est une solution pour le climat. Alors, je vais faire un petit tour de table.
Décidément, le capitalisme a réponse à tout. Après l'exposé brillant sur le marché du carbone, vous écoutez une table ronde sur l'agroécologie où Carrefour, partenaire de la COP21, vient nous dire que c'est une thématique qui préoccupe l'entreprise et propose ses prétendues bonnes pratiques.
Du groupe Carrefour. Carrefour, en quelques mots, c'est le deuxième distributeur mondial. Vous êtes présent dans 35 pays, 12 000 magasins. Un chiffre d'affaires de plus de 100 milliards d'euros en 2014. Chaque jour, c'est plus de 12 millions de clients à travers le monde. Et vous êtes un des partenaires de COP21.
Merci. Alors, Carrefour, nous souhaitons, nous, bien faire notre métier. Et bien faire notre métier, c'est proposer des produits de qualité à nos clients. Ces produits de qualité, ils ne doivent pas en même temps épuiser les ressources. Doivent permettre de maintenir le niveau de production parce qu'on souhaite continuer à les proposer à nos clients. Donc cette pérennité et cette protection des ressources font partie de la question du climat. C'est une demande de nos consommateurs, mais c'est aussi une nécessité pour continuer à pouvoir offrir ces produits de qualité et en quantité beaucoup.
Down 268 points, Empire Gas. Down 289 points.
Les autorités américaines veulent traîner devant la justice une douzaine de banques pour leur rôle dans la crise des subprimes.
La crise du crédit immobilier américain affole les investisseurs.
On nous dit, le bonheur c'est le progrès, faites un pas en avant.
La Grèce aura besoin d'un troisième plan d'aide.
Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur.
L'affaire Kerviel va-t-elle devenir l'affaire Société Générale?
Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose?
Alors que Pékin est en alerte rouge, le niveau de pollution dû au smog le plus grave et qui est franchi pour la première fois dans le protocole prévu par les autorités chinoises, l'artiste Wen Fang engage une action symbolique. Avec quelques autres, ils revêtent un masque et finissent par terre comme sans vie.
Vegan! 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 Veg
Alors, est-ce que vous pouvez me parler de l'action que vous venez de faire ici au Bourget?
C'est une décision que j'ai faite hier. Pékin, c'est la première fois, comment on dit, qui lance
à l'alerte rouge.
À l'alerte rouge.
Oui.
Donc là, puis, vous parlez de la pollution de l'air à Pékin. Ouais. Ou...
Et puis aujourd'hui, toute la famille, tous les amis, tous les Pékinois vivent dans le désespoir. Elle sait, parce qu'elle vient de Pékin.
J'étudie à Pékin. Et c'est affreux. Je suis obligée de porter un masque tous les jours pour aller à l'université. Et les couloirs de l'université sont pollués, en fait. C'est-à-dire qu'on voit de la fumée dans les couloirs et dans les salles de classe, tellement la pollution s'infiltre même à l'intérieur des bâtiments. C'est irrespirable.
Comme artiste indépendant, peut-être je suis la seule Chinoise qui est là. Donc si je ne fais rien, je sens coupable, vraiment.
Et quel message vous avez envie vraiment de faire passer
Parce que, en fait, ce que j'ai compris, c'est ici, il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent c'est quoi la pollution de l'air. Là, vous dites qu'il y a la pollution de l'air, mais en fait, vous ne sentez pas. Mais je voudrais faire tout le monde savoir qu'est-ce qui s'est passé à Pékin, parce que on attend déjà 5 ans, 10 ans, qu'on me dise que ça va améliorer, ça va changer. C'est pire en pire. On va pas, avant de mourir, on voudrait annoncer. On voudrait parler. Ouais, je fais ça pour tous les Pékinois, quoi.
Parce qu'il y a des conséquences qui sont très réelles, j'imagine, sur l'état de santé des Pékinois, justement.
Ouais, c'est... Surtout les enfants, tu sais. Moi, je suis une mère aussi. Mon fils, qui a 3 ans et demi, tous les enfants de cet âge-là sont malades. On ne dit pas 80%, hein, tous les enfants, tous, souvent hospitalisés pour le problème de poumon. Parce que leur poumon est fragile par nous. Donc, si on veut nos enfants grandir, il faut faire quelque chose. Même si, je ne sais pas, qu'est-ce que ça va tomber sur moi, ce n'est pas grave. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, après, quand je rentre en Chine. Mais je fais avec mon cœur, avec... Si on fait ça en Chine, devant des étrangers...
Il n'y a pas de possibilité de s'exprimer là-dessus en Chine.
C'est difficile. Hein.
Alors, on parlait de solutions, justement. Qu'est-ce que vous proposez?
Je suis artiste.
Oui. Non, mais
je ne suis pas technicien.
Non, mais bien sûr, mais vous avez peut-être une idée quand même. Parce que vous êtes artiste, vous avez une action politique. Donc, vous avez peut-être une idée.
En Chine, quand il se passe des événements très importants, le gouvernement, qu'ils ont des solutions.
Oui.
Je crois que... Maintenant, ils trouvent que ça ne vaut pas la peine de payer si cher pour la pollution de l'air quotidienne.
Quand vous dites...
Mais moi, je voudrais dire que ça vaut la peine. On ne veut pas mourir. On n'est pas 1, 10, 100 personnes. On est tous les gens de toute la ville. Pour l'économie, on ne va pas... sacrifier la vie, la santé. C'est ça?
Oui, finalement c'est ça. C'est aussi simple que ça.
Ouais.
On peut dire.
Wen Fang travaille avec l'association Art of Change 21 que nous présente Camille Cherkès.
Qui est une association qui a été créée il y a un an par Alice Audouin, qui a réuni 21 artistes et entrepreneurs sociaux de 12 pays. Parmi eux, Wen Fang, une artiste chinoise qui a eu l'idée du projet Mask Book, qui en fait permet à chaque citoyen de publier sur la galerie en ligne maskbook.org un masque créatif et artistique qui exprime ses solutions et ses préoccupations sur le climat et l'environnement. Donc le but, c'est de parler de la pollution de l'air et du climat d'une manière créative et artistique, et que chacun puisse s'engager, chaque citoyen peut participer.
Vous le faites en d'autres points qu'ici au Bourget, ailleurs dans Paris?
Oui, on a eu donc la galerie a été lancée en septembre 2015. Donc depuis, on a reçu des masques du monde entier, mais on a organisé également beaucoup d'ateliers à Pékin et à Paris, dans des entreprises, des universités, des écoles, des associations. Et on a un espace au Bourget, à la galerie By World Efficiency et au Grand Palais, pour viser tous les publics, les entreprises qui ont des technologies innovantes, mais également les citoyens, les artistes, tous les publics. Donc on a des stands, on participe à des salons, des forums sur la qualité de l'air, comme les respirations. Des festivals, des associations, tout type d'événements. sur le stand. Donc ça nous permet d'avoir des ateliers pour que tout le monde puisse créer un masque, mais aussi des expositions des masques qui ont déjà été créés, des masques et des photos, des portraits qui sont réalisés. Et également afin de présenter un autre projet que l'association porte, qui est Care Game, qui est un jeu en ligne de réduction de nos émissions de CO2.
Là, c'est Al Gore qui est en train de donner sa leçon, tel le Messie, hein, accroché sur un écran au milieu du hall de ce village. Voilà, il est en train de faire son prêche. Et beaucoup de monde s'arrête hein, pour voir ce qui est en train de se dire. Juste à côté, il y a Google qui est là pour montrer comment il se soucie de l'avenir de la planète. On va terminer cette émission avec un député de la République démocratique du Congo. Il s'agit de Maurice Ambena Zaingali, rencontré dans le bus de retour de la COP21. Ce député est très mobilisé dans son pays sur la question de la sauvegarde de la forêt.
Nous sommes venus participer à la COP21 en tant que parlementaire. Et nous sommes associés aux discussions relatives au dérèglement des changements climatiques. Mm-hmm.
Oui. Donc comment ça se passe? Vous vous retrouvez avec d'autres parlementaires du monde entier? Vous avez des discussions?
Exactement. Nous avons rencontré nos collègues du monde entier. 67 pays ont participé, dont le député interparlementaire, à cette rencontre pour pouvoir voir comment, à notre niveau, nous pouvons légiférer des lois et aller dans ce sens-là et contrôler nos gouvernements respectifs pour le dérèglement des changements climatiques.
Est-ce que de votre point de vue, ces discussions et les échanges que vous avez eus ici à Paris vont dans le bon sens? Est-ce que ça va apporter quelque chose vraiment sur la question climatique, mais peut-être plus globalement sur la question environnementale?
Affirmatif, nous sommes convaincus avec nos collègues que nous devons, de notre côté, faire en sorte que les discussions nous amènent à un accord positif, d'autant plus que le dérèglement climatique n'épargne personne. Donc nous sommes en droit de pouvoir chercher des moyens pour trouver des solutions.
Mmh. Oui, c'est ça. Et vous pensez qu'effectivement les solutions elles vont sortir de cette COP21 à Paris, puisque il y a beaucoup de discussions hein, autour de cet accord qui devrait sortir, et notamment sur le fait qu'il ne sera pas contraignant. Donc peut-être c'est une limite aux solutions.
Oui, la COP21 n'est pas en soi la limite. C'est une ouverture, ça fera une ouverture vers d'autres discussions qui resteront toujours en cours. Nous ne pouvons pas dire que la COP21 va résoudre tous les problèmes sur le dérèglement climatique. Non, il y a quand même une avancée significative à la COP21 sur le dérèglement climatique.
De quel ordre alors cette avancée?
Chaque pays... Comme je l'ai dit en amont, le problème est collectif. Chaque pays doit mettre un peu de sa volonté de pouvoir tout faire pour qu'on arrive à trouver un accord. Chaque pays.
Alors, il y a une autre chose qui est dans les discussions, c'est la question du rapport Nord-Sud et la question de la responsabilité des pays du Nord. J'imagine que vous avancez dans les discussions de ce point de vue. Est-ce que vous considérez que les pays du Nord ont une responsabilité plus importante que les pays africains comme la République démocratique du Congo par exemple?
Exactement, les pays du Nord sont le premier pollueur. Donc ils doivent prendre compte et se rendre aussi compte qu'ils doivent beaucoup faire par rapport aux pays de développement. C'est dès qu'ils ont beaucoup déréglé le climat par la pollution, Et ils se rendent compte qu'ils doivent être au premier plan pour pouvoir trouver des solutions.
Alors, à présent, on peut peut-être parler de votre pays,
de la République démocratique du Congo. Quels sont les principaux enjeux environnementaux qui se posent dans votre pays?
Oui, vous savez que notre pays, le Congo, la République démocratique du Congo, c'est le deuxième massif forestier du monde après l'Amazonie. Et nous sommes dans le cœur même de ces problèmes, parce que cette réserve forestière si importante doit faire appel surtout aux pays du Nord de pouvoir nous accompagner.
Pour sauvegarder la forêt, vous voulez dire?
Oui, voilà, préserver la forêt, sauvegarder le fond, tout ça. Et les pays du Nord doivent nous accompagner.
Alors, de quelle manière cela peut se faire?
Parce que nous avons le système de l'agriculture subrilie, nous devons abandonner ce système d'agriculture-là pour aller faire une agriculture mécanisée. Pour ce faire, il faut nous accompagner. Il faut que le pays du Nord doive nous accompagner. Ce n'est pas facile à dire à un agriculteur d'abandonner ce système-là, alors vous ne leur apportez rien.
Oui, donc, parce que c'est une question de survie pour cet agriculteur en question.
Tout à fait, parce que la forêt, c'est pour nous, c'est la vie pour nous. Donc, et alors dire que non, il ne faut pas couper de bois de chauffage, vous demandez de trop à un agriculteur. Il faut chercher les mécanismes pour ne pas lier à ça. C'est ça. C'est ce que nous demandons au pays du Nord de pouvoir nous accompagner.
Nous cheminons depuis toutes les zones à défendre avec l'énergie du mouvement, en créant en route des espaces de rencontre et de mobilisation. Comme de nombreux habitants, habitantes, paysans, paysannes, migrants, migrantes, d'autres parties du monde qui subissent déjà en première ligne les conséquences du réchauffement climatique.
Nous savons que notre salut ne viendra pas des échanges de marché carbone entre lobbies industriels et gouvernements, encore moins du capitalisme vert. Nous voulons participer à une reprise en main par les populations et mouvements de lutte de l'avenir de la planète.
Vous venez d'écouter Escapade Info, 3e édition spéciale sur la COP21. On se retrouve demain pour un ultime rendez-vous diffusé sur les ondes de Radio Escapade, Radio Vassivière et de Fréquence Paris Pluriel. Et on se quitte avec ce morceau de la marche de Notre-Dame-des-Landes à Paris. Bonne suite à vous sur les ondes, portez-vous bien, salut!
Fini la vente de nos terres pour servir vos marchés. Fini vos accords pour savoir qui pourra enfin polluer. Fini de voir le vivant comme matière à spéculer. Fini de laisser faire votre crime organisé. Vos mascarades électorales pour aller squatter l'Elysée. Fini vos lobbies qui licencient pour spéculer. Fini de faire de nos besoins un grand marché. Fini l'esclavage moderne et votre machine bien huilée. Fini Bouygues, FH, Vinci et leurs grands projets. Fini la méritocratie et vos semblants de démocratie. Fini vos guerres au nom d'un peuple que vous voulez pacifiste. Fini de vivre au rythme du réveil pour faire grandir vos chiffres. Fini de baisser la tête et de trouver ça normal. On a levé les yeux au ciel et on a crié idéal. Arrive de loin, frères et sœurs, de naufragés de votre galère. Arrive de loin à l'abordage pour éviter notre naufrage. Arrive de loin de l'eau en lutte pour qui l'argent n'est pas un but. Arrive de loin et sans aisance pour essaimer la résistance. Sur toile de fond sécuritaire, vous assumez une fois pour toutes vos grandes peintures de guerre. État d'urgence pour un pays aseptisé, ça sans flicage dans l'hexagone à durée indéterminée. La peur pour consommer plus qu'il n'en faut, la peur pour nous apprendre à tout ça, marcher sous vos drapeaux. La peur pour nous faire croire qu'il y a bien pire ailleurs. La peur pour nous faire oublier vos techniques de tirailleurs. La peur pour vous laisser nous supprimer nos libertés. La peur pour nous faire taire quand bien te sonne la colère. État d'urgence climatique, la terre appelle à converger. État d'urgence économique, le peuple appelle à se révolter. État d'urgence sociale, on en a marre du libéral. État d'urgence systématique tant que la machine sera fanatique. Arrive de loin, frères et sœurs, de naufragés de votre galère. Arrive de loin à l'abordage pour éviter notre naufrage. Arrive de loin de lieu en lutte pour qui l'argent n'est pas un but. Arrive de loin et sans aisance pour essaimer la résistance.
C'est dans ce climat de tension que nous, militants, militantes, résistants, résistantes, paysans, paysannes, citoyens et citoyennes, ne tournerons pas le dos face aux menaces sécuritaires. Nous cheminerons vers la COP comme nous cheminerions vers un éventuel G8 ou G20 pour faire entendre notre voix et montrer notre détermination à lutter contre une logique politique qui ne respecte pas le vivant comme sacré. Nous resterons sans concession et sans demi-mesure dans notre volonté de protéger ce qu'ils n'ont pas encore détruit. Ils veulent nous faire tomber à terre, mais ils ont oublié que nous étions des graines.